Bonjour, frère du mois de juillet. Il n'y a pas de touristes aujourd'hui, on est entre nous. C'est bien. On va pouvoir se parler franchement. Donc aujourd'hui, je continue à parler de personnages précis de la Bible et je continuerai, selon mon habitude, à parler des femmes, parce que finalement le filon est inépuisable et il y a des choses passionnantes à voir, à raconter et qui peuvent nous apporter beaucoup. J'avais quelques doutes sur l'utilité de ce que j'allais dire, mais Dieu faisant bien les choses, un des textes que tu as lu est un des textes piliers de ce que je vais raconter. Donc je me sens soudain rassuré et dans la bonne voie. Merci mon Dieu. Vous avez dû voir, ou peut-être ne serait-ce que quelques extraits, le défilé du 14 juillet, qui a eu lieu donc il y a 2 jours. Et donc vous avez vu notre président, M. Macron, et M. Donald Trump, président des États-Unis, qui était en mondovision quasiment, et qui représentait, lors d'une très belle cérémonie, parce que nous savons faire cela, la puissance militaire, la richesse, la gloire, le savoir-faire d'un pays allié à un autre pays tout aussi puissant. Et c'est extrêmement impressionnant, et on avait sentiment de au-delà de tous les clivages politiques, un sentiment de, on peut le dire, de fierté d'appartenir à cette nation capable d'organiser un tel événement et d'avoir comme invité quelqu'un en dehors de ce qu'il est lui-même, qui représente quand même une grande puissance, la plus grande puissance. Et c'est toujours amusant de voir l'impression que font les images sur nous-mêmes, en tout cas sur moi, et ces images de foule, de défilés, d'armes. Ça marche depuis la nuit des temps et ça a toujours déclenché chez les êtres humains, peut-être plus chez les hommes que chez les femmes, le sentiment d'une marche en avant, d'une force collective qui est assez impressionnante. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du défilé, ils avaient fait quelque chose de très très original, puisque vous savez que c'était le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ils sont rentrés en 1917, c'est pour ça que le président des États-Unis était là en tant que représentant du peuple américain. Et ils ont fait un défilé parallèle des moyens, armement, hommes, de 2017 et de 1917. Donc ils étaient sur la même ligne. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. C'était très impressionnant. Donc on a voyé le canon de 1917 et à côté le canon de 2017. Évidemment, ce n'est pas pareil. On voyait le pont flottant. Alors c'était un petit canot pour les soldats de 1917 et les immenses ponts modernes pour faire passer les tanks. Pareil pour les chars, les petits chars à petit, et les ambulances, les moyens de transmission. Il y avait comme ça, ils avaient retrouvé des vieux armements et en un regard, on voyait le progrès humain qui avait été fait sur les armements etc. Et c'était très frappant, c'était vraiment d'un point de vue de la mise en scène très très bien fait de voir que comme le génie humain en 100 ans avait progressé. Alors le problème c'est qu'il a progressé au service de la mort évidemment parce que le petit canon de 1917 faisait déjà très mal mais celui de 2017 tue 1000 fois plus etc. etc. Et on peut dire que le XXe siècle au point de vue du progrès sur la mort aura été très très fort. Et je me demandais que si on avait mis le génie, ce même génie humain, au service de la vie, au service de Dieu, ça aurait été bien qu'il y ait autant de progrès qu'il y a eu dans les armements, dans le moyen de tuer son semblable, s'il avait pu être mis au service de la vie de nos semblables en lui faisant connaître Dieu. Or finalement, si on faisait la même image d'un culte en 1917, et un culte en 2017, le progrès humain, il serait inexistant. Bon, il y a un José moderne qui nous fait un rétroprojecteur sur Internet, Il y a peut-être une clim qui permet d'avoir moins chaud qu'en 1917. Nous serions habillés différemment, mais sinon, en termes de chant, parfois même on reprend des vieux chants, en termes de tenue du culte, de prédication, finalement, il n'y a pas eu de progrès humain en cette matière-là. Aucun. Et c'est pareil dans toutes les religions. Toutes les religions sont comme figées. Il n'y a que les catholiques qui ont abandonné le latin, mais sinon, c'est les mêmes églises, les mêmes cathédrales, les mêmes habits, les mêmes prières. Et ce qui peut passer à juste titre, au premier regard, pour de l'immobilisme, peut-être une espèce de côté arriéré de notre foi, de la manière de la faire vivre, c'est peut-être finalement le contraire. C'est peut-être la démonstration de l'originalité de Dieu, de son statut très à part dans notre vie à nous. Peut-être qu'on ne peut pas progresser de manière aussi spectaculaire, visuelle, comme c'était pour les arbres, tel que je vous l'ai expliqué. Parce qu'ensemble, les hommes peuvent faire de grandes choses, de très grandes choses. Les pyramides, les fusées, les vaccins. Enfin, il y a un génie humain qui, ensemble, regroupé, permet d'améliorer notre vie. Ensemble aussi, on peut faire des choses épouvantables. Les guerres, les massacres et tout ce que vous savez. Mais Dieu, on ne peut le rencontrer que seul. Et c'est pour ça que cet acte individuel, finalement, empêche toute amélioration visible, tout progrès flagrant comme celui des armes, parce que l'homme, lui, ne change pas. Ensemble, nous allons changer. Nous nous améliorons dans nos techniques, dans notre manière de vivre, mais au fond de nous-mêmes, individuellement, dans cette foule du défilé du 14 juillet, par exemple, chaque homme individuellement est exactement le même qu'il y a 100 ans, 500 ans, 1000 ans, même s'il a acquis un savoir-faire qui profite d'un savoir-faire que la masse humaine a réussi à mettre en œuvre, individuellement, nous sommes toujours les mêmes, avec les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes envies, les mêmes joies. Et prier Dieu, rencontrer Dieu, c'est toujours un acte individuel. C'est une décision personnelle qui n'est pas liée au progrès, qui n'est pas liée à la volonté des peuples. Et c'est peut-être pour ça que nos cultes, finalement, ne varient pas, parce que l'important n'est pas là. Puisque quand on est avec Dieu dans un culte, dans une église, dans où l'on veut, on se remet à l'état premier de notre humanité. C'est-à-dire, qui je suis, pourquoi est-ce que je suis né? Personne ne nous a demandé notre avis, personne ne nous demandera notre avis pour savoir le temps où l'on va mourir. Chacun cherche à être heureux selon les moyens qui lui sont donnés, le monde, la société dans laquelle il vit. Et puis tout le monde tente de comprendre le sens de son existence. Et pour ça, on peut avoir toutes les télévisions du monde, tous les chars, tous les livres, ou rien du tout, simplement un paysan du Moyen-Âge. En fait, une fois qu'on a évacué les histoires de connaissances supplémentaires que l'ensemble des hommes a mis en place pour qu'on soit plus intelligent, plus éduqué, mais à l'arrivée, on se retrouve toujours nu devant ces grandes questions. Et je voudrais, mon introduction est un peu longue, c'est là que j'arrive à mes portraits de femmes dont je vous ai parlé au début. Je vais vous parler de deux femmes que tout sépare. Le temps, l'espace, le mode de vie. Et pourtant, elles sont finalement assez proches l'une de l'autre, très proches l'une de l'autre. Et nous aussi, vous allez voir, les deux femmes dont je vais vous parler, tout nous sépare d'elles, encore plus. Et pourtant, nous sommes très proches d'elles. Parce que la rencontre avec Dieu, c'est toujours un acte personnel. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit l'époque à laquelle on vit, quels que soient les moyens que l'on a. Et ce que racontent ces histoires, c'est notre histoire à nous. Et c'est l'histoire de toutes les personnes qui nous entourent, si elles décident de rencontrer Dieu. Alors, je vais d'abord vous parler de la reine de Saba. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame. Moi, pour moi, la reine de Saba, pendant longtemps, ça a été un gâteau au chocolat. Alors, je suis désolé, j'avais prévu de venir avec une reine de Saba. C'est dans mon enfance, reine de Saba, c'était un gâteau au chocolat qui est extraordinaire. Ma fille sait très bien le faire. Elle n'est pas là avec moi alors qu'elle devait être. Donc, je n'ai pas voulu faire ça sans elle. Donc, je vous apporterai une reine de Saba un autre dimanche. Vous la goûterez, vous verrez, c'est extraordinaire. Elle l'a fait très, très bien et c'est un délice. Mais moi, je ne voulais pas me permettre d'amener un truc raté. Donc, voilà. C'est une promesse que je tiendrai, je vous promets. Alors pourquoi appelle-t-on ce gâteau la reine de Saba? Et j'ai appris plus tard pourquoi. Parce que la reine de Saba, en fait, elle était noire. D'où le nom du gâteau. Alors, c'est quelqu'un qui apparaît dans le livre des rois, le livre des chroniques, à l'époque du roi Salomon. Vous voyez, on va très très loin. A priori, nous sommes très éloignés de notre présent. Elle était reine d'un royaume. Alors, tous les historiens, c'est toujours pareil dans ces vieux textes de l'Ancien Testament. Est-ce que ça a vraiment existé? Pas vraiment. Quelle est la part de, non pas de légende, mais de littérature qu'on a mis autour? A priori, les historiens, les recherches, les archéologues montrent qu'il y a vraiment eu un royaume de Saba. On a retrouvé des choses, etc. Donc, ce royaume de Saba était immense. Il s'étendrait du Yémen au nord de l'Éthiopie et en Érythrée. Vous voyez, c'est la corne orientale de l'Afrique, la côte est, tout en bas de la mer Rouge. Et donc c'est là que vivait cette reine de Saba, qui est une reine très riche, on va le voir un peu plus tard, qui a des moyens immenses. C'est une femme de pouvoir, c'est une femme de richesse, c'est une femme qui connaît la gloire. C'est notre Donald Trump, en quelque sorte, de 2017. Et elle va avoir, cette femme, alors qu'elle a tout, elle va avoir un manque, une curiosité, un besoin. Et ce besoin, ça va être de, sans doute, au fond de son cœur, de se dire, comme je disais, pourquoi est-ce que je suis là? D'accord, je suis reine, je fais ce que je veux, j'ai le monde, mon monde à moi, de cet empire à mes pieds, et pourtant, ça ne me suffit pas. Pourquoi ça ne lui suffit pas? Puisqu'il est dit dans... Donc, ce n'est pas la peine de marquer, comme d'habitude. Merci d'apprendre à me connaître. Donc, dans 1 Roi 10, la reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon, la gloire de l'Éternel, et elle vint l'éprouver par des énigmes. Donc, voilà une femme qui, à une époque très éloignée de nous, avec des moyens qu'aucun de nous n'aura jamais, au fond de son cœur, elle ressent quelque chose, il lui manque quelque chose. Parce qu'elle va faire 4000 kilomètres. Et 4000 kilomètres à cette époque, même en étant reine de Saba, ça fait un sacré bout de chemin. Même si elle ne va jamais marcher, il y aura des éléphants, des bateaux, ce qu'on veut, c'est quand même un déplacement énorme. On ne fait pas ce déplacement-là juste pour le plaisir. Et il est dit qu'elle fait ce déplacement-là parce qu'elle voulait rencontrer ce Salomon dont la réputation était venue jusqu'à ses oreilles. Et si c'était simplement une réputation de magnificence, etc., ça aurait pu être cela, mais c'était plus, puisqu'il est dit, et elle vint l'éprouver par des énigmes. Des énigmes, en fait, par des questions. Des choses auxquelles il est difficile de répondre. Donc, en fait, c'est une visite officielle. C'est pour ça que je parlais aussi du 14 juillet. Il faut imaginer cette femme et toute la puissance de son royaume qui arrive dans le royaume de Salomon, qui à l'époque est à l'apogée de son pouvoir. Il vient de terminer le temple, il est riche, célébré, complètement béni par Dieu, et avec une réputation donc qui va beaucoup plus loin de ce qu'il est dit pour cette visite officielle de deux grands chefs d'État. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Et il est dit un peu plus loin, elle donna au roi 120 talents d'or d'une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'arriva plus autant d'aromates que celles que la reine de Saba donna au roi Salomon. Donc là, nous sommes en présence de gens qui ont un mode de vie absolument incroyable. C'est deux star absolue de l'époque qui se rencontre avec cette femme qui fait ce long, très très long chemin pour le rencontrer. Et que fait-elle à ce moment-là? Donc, elle va Elle vient avec des questions, elle vient avec ses énigmes personnelles, et il est dit, elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Quelle quête incroyable quand même. Quel besoin d'apprendre. Mais plus que d'apprendre, pour faire un tel chemin, c'est que on a un besoin très puissant, une soif de savoir quelque chose qui nous manque. Et elle vient pas n'importe où, elle vient auprès d'un roi dont elle a entendu dire qu'il y avait un Dieu qui le protégeait et qui faisait tout pour lui. Alors, que fait Salomon en réponse? Il reçoit tous ses cadeaux, d'accord, et pour lui dire, bon, non, Salomon, qui est le représentant de Dieu, n'a pas à cacher la vérité qu'il connaît. Il y dit tout de suite après, Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait, et il n'y avait rien de caché pour le roi qu'il ne pouvait lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions, les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Réaction de cette femme, au bout de son voyage de plusieurs mois, et devant cet homme qui répond à ces questions, qui sont forcément des questions existentielles, il est dit, elle en perdit le souffle. Elle en perdit le souffle. Elle, la reine de Saba, la reine de tous les pouvoirs, de toutes les richesses, elle perd le souffle devant ce que lui dit Salomon, qui est capable simplement de répondre à toutes ces questions. Et elle prend la parole. « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes affaires et de ta sagesse. Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on n'en a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. » Et une fois qu'elle a fait, qu'elle accepte cette vérité qu'elle reçoit, première étape, elle va la chercher très loin. Même si elle a les moyens, c'est quand même un gros effort. On lui dit la vérité, elle l'accepte. Et maintenant, elle en tire les conséquences de cette vérité. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Et face à cet acte de foi, devant la vérité que lui a révélée Salomon, et pour une femme, une princesse, une reine de cette envergure, aller accepter avec humilité de reconnaître que lui, ce roi, détient une vérité qu'elle ne détient pas, que même les richesses qu'il a lui coupent aussi le souffle par rapport aux richesses qu'elle a elle-même, elle n'est pas en train de se dire « je vais venir, revenir avec mes troupes parce que j'ai trouvé un royaume plus puissant que le mien et c'est moi qui vais devenir reine de ce royaume parce que je vais être calife à la place du calife ». Non, elle reconnaît, elle admet cette vérité supérieure qu'elle ne détenait pas. Et Salomon, cette vérité, il ne l'a pas gardée, puisqu'il lui a offert, et non seulement il lui offre la vérité, mais il est dit un peu plus tard, « Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'elle demandait, et il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna pour aller dans son pays, elle et ses serviteurs. » Quelle relation extraordinaire entre ces deux personnes, qui sont pourtant, je vous ai dit, c'est les deux vedettes de l'époque, c'est les stars du défilé. Entre eux, une relation de confiance, de vérité, d'échange. J'ai reçu, je te donne. Je t'ai demandé, tu m'as donné, j'accepte. Et chacun, ensuite, est rempli de cette vérité et repart de son côté. Alors, l'histoire de la reine de Saba ne s'arrête pas là, parce que vous savez sans doute, ou vous ne savez pas, que la tradition, mais qui va un peu plus loin, dit qu'il y a eu une histoire entre Salomon et la reine de Saba. Que le Cantique des Cantiques, c'est en discussion, mais il y a une grande il y a beaucoup d'historiens qui disent que la fameuse tsunami, c'est ça, du Cantique des Cantiques, c'est la reine de Saba. Donc on dit qu'elle est noire, etc. etc. Et que, d'autant plus que si on va dans la traduction même de ce qui est écrit, quand il dit tout ce qu'elle désira et ce qu'elle demanda, en fait, les termes sont beaucoup plus précis. Alors évidemment, je ne parle pas du tout de l'hébreu, je fais confiance à ce qui est dit. Il lui donna tout son désir qu'elle demanda. Et il lui donna comme la main du roi Salomon. Enfin voilà, une espèce de truc qui fait que il est possible qu'il y ait une histoire entre elle et lui. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que de cette vérité, de ces deux êtres très supérieurs à nous, d'une autre époque, de tout ce qu'on veut, qui sont éloignés de nous de 10 000 km dans l'espace-temps, il y a eu cette rencontre qui peut arriver à n'importe qui. Parce que vous voyez bien que Salomon, c'est l'image de Jésus qui est là. On vient près de lui, il donne gratuitement, il donne même en abondance, et la personne en face reçoit et remercie. Alors évidemment, avec Jésus, on n'a pas de relation intime de cet ordre-là, mais on a évidemment une relation intime d'un tout autre ordre qui donne aussi la vie, mais une vie qui va plus loin que la simple vie d'un petit bébé, parce que il est dit que cette reine de Saba eut un enfant. Alors là, il faut aller dans le Coran, il faut aller dans la Torah, il y a des choses qui sont racontées sur ça. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'on va franchir quelques siècles, quelques millénaires. Vous savez qu'en 1984, il y a eu une opération qu'on a appelée l'opération Moïse. Il y avait des juifs en Éthiopie, des juifs noirs, dont personne ne s'occupait. Et il y a eu une grande famine. Et donc ces gens ont été, avec d'autres Éthiopiens, sont partis se réfugier au Soudan. Et Israël, au bout d'un long processus de réflexion, etc., a considéré que ces Noirs qui se disaient juifs depuis des millénaires étaient réellement juifs. Et ils ont fait un pont aérien pour sauver 8000 de ces personnes, surtout des enfants, qui sont devenus les juifs noirs d'Israël. Ils ont recommencé en 1985, cette fois-ci, savez-vous comment s'appelait cette opération ? L'opération Reine de Saba. Et en 1991, l'opération Salomon. Donc, il y a actuellement des 16 000 qui ont été exilés, en quelque sorte, en Israël. Ils sont maintenant 130 000 juifs noirs, venus d'Éthiopie, et venus, d'une manière ou d'une autre, de cet épisode de la reine de Saba et de Salomon. Alors c'est des gens qui sont très maltraités, hein. C'est très difficile pour eux, il y a un racisme anti-noir en Israël, mais ça c'est une autre question. Mais si vous voulez en savoir plus sur ces gens qui s'appellent les Falasha, je vous conseille de voir un très beau film qui s'appelle « Va, vie et deviens » et qui raconte justement cette opération Reine de Saba et à un petit enfant qui est arraché à sa mère, c'est sa mère qui l'offre en disant « lui au moins il aura une vie » et comment est-ce qu'il s'installe en Israël. C'est passionnant. Et pourquoi je vous raconte ça ? C'est pas pour faire le malin, c'est simplement pour vous dire qu'à partir de cette quête de cette femme qui a fait ses 4000 km, etc., je vous ai tout raconté, je ne vais pas relancer, il y a eu, alors est-ce que c'est vraiment ça ou pas, un fruit qui a été donné, ce peuple-là, qui finalement, aujourd'hui, est rentré en Israël. Et vous allez me dire, oui, mais alors là, on est dans un domaine, c'est très intéressant, enfin, très intéressant. Ça peut être intéressant comme histoire, à la limite, c'est une belle histoire, c'est riche, mais c'est tellement loin de nous. Non, c'est pas loin de nous. Parce que nous, est-ce qu'on a été capable de faire cette quête ? Est-ce qu'on a été capable de faire ce voyage à un moment ou l'autre ? Est-ce qu'on a été capable d'accepter la vérité qu'on nous a donnée ? Est-ce que nous, quand nous sommes à la place de Salomon, un tout petit Salomon, et que quelqu'un vient vers nous, traverse la rue, en voisin, vient nous dire « Moi, pour mon fils, viens faire ce... » Est-ce qu'on est capable, devant cette quête, d'avoir la simplicité, le courage de faire ce qu'on a fait Salomon, de tout donner gratos ? Et de même de donner plus, et ensuite de laisser repartir avec ce cadeau-là. Mais je vous dis que j'allais parler de deux femmes. Maintenant, je parle de la seconde femme. Et là, je vous entraîne encore dans un autre voyage à remonter le temps. En fait, on va avancer dans le temps. Imaginez que vous êtes sur Google Earth. D'accord ? Donc, on est Reine de Saba, Salomon. Et on s'en passe. Et on franchit 1000 ans. Et des grands palais de Jérusalem, on arrive à un petit village près de Jérusalem, 3 kilomètres, Béthanie. Et là, on rencontre une femme qui s'appelle Marie. C'est l'inverse du défilé du 14 juillet, là, quand on faisait la comparaison de 1917-2017. Là, dans le défilé, on a passé du bricolage de la Première Guerre mondiale avec des petits canons à la grande armée moderne française. Là, c'est l'inverse. Car si nous lisons Luc, donc évidemment, je vais vous parler de Marie de Béthanie. Hein. Vous allez me dire quel rapport avec la reine de Saba. C'est deux mondes totalement. Vous allez voir. On passe de la puissance, de la gloire, à la poussière d'un quotidien banal. Voilà comment Jésus rencontre Marie de Béthanie. Pendant qu'ils étaient en route, c'est-à-dire tous les disciples, il entra. C'est intéressant, c'est qu'on peut supposer que eux, ils étaient, comme c'était les 80 qui étaient éparpillés, qui étaient revenus, peut-être qu'ils étaient un peu partout. Et lui, il entre. C'est pas une troupe qui rentre, c'est lui qui entre. Il y a marqué, ils entrèrent. Il entra, seul, dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Là, on se demande où sont les chevaux, les chameaux, l'or, les aromates, les palais, les serviteurs. On se dit, ce qui a bien marché pour le défilé du 14 juillet, il y a quelques jours, le progrès technologique, là, avec Dieu, ça ne marche pas du tout. On est passé de la magnificence de la reine de Saba à une rencontre totalement banale dans un village au milieu de la poussière, et d'un quotidien qui n'a pas le moindre intérêt. Or, ce qu'on prend d'abord pour une régression, si on passe de la rencontre de Salomon et de la reine de Saba à la rencontre de Jésus et de Marie de Béthanie, en fait, ce n'est pas une régression, c'est un progrès formidable. Un progrès extraordinaire, un progrès dont on bénéficie, nous, totalement. Que fait Marie ? Est-ce qu'elle a fait 4000 kilomètres pour entendre la parole de Jésus ? Est-ce qu'elle a préparé des tas de cadeaux ? Est-ce qu'elle a préparé des questions à lui poser ? Non, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Jésus vient à sa porte. Il rentre dans son village. Il va dans sa maison. Il s'assoit à sa table. Et elle, que fait-elle ? S'il dit... Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Le vrai progrès, il est là. Et ça rejoint ce que je vous disais sur le culte, nos cultes qui n'évoluent pas. Parce qu'on s'en fiche. Parce que le progrès, il est dans la relation personnelle. Cette reine de Saba, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, via un intermédiaire qui était Salomon, il a fallu qu'elle se tape les 4000 bornes, etc., etc., etc. Marie, elle ne fait rien. C'est Jésus qui vient à elle. La vraie modernité, elle est là. L'immense progrès dont je me plaignais qui n'existait pas, évidemment qu'il existe avec Jésus. La reine de Saba, c'est la poste à cheval. Marie de Béthanie, c'est la Wi-Fi. Plus besoin de bouger, plus besoin de faire les efforts, plus besoin d'aller se déplacer. Jésus vient à nous. Jésus est immédiatement disponible. Avant, pour avoir une information, vous deviez donc envoyer une lettre qui passait par le choix et tout. Maintenant, vous tapez deux trucs et vous l'avez. Avec Dieu, maintenant, grâce au Nouveau Testament, grâce à la Nouvelle Alliance, c'est faisable. Et cette relation personnelle dont je vous parlais au début, eh bien, cette relation personnelle que tant de gens, depuis des millénaires, ont eu tant de mal à mettre en place, parce qu'il fallait passer par des intermédiaires, il fallait voyager, il fallait dans des temples, traverser des lois, etc. Là, il suffit de demander. Et tac, la communication est établie. Donc faisons très attention à nous ne pas nous inclure dans une fausse modernité qui consisterait à s'isoler dans des méthodes, dans des formes de progrès à travers des rencontres qui vont être mises en YouTube, en plein de choses, enfin une espèce de groupement de nos forces pour faire avancer la parole de Dieu. Évidemment que c'est utile, mais ça ne remplacera jamais, jamais, jamais le besoin absolu que nous avons d'une relation personnelle, autonome, individuelle avec notre Dieu. Et le miracle de Jésus, c'est que il nous permet d'avoir cette relation-là, cette modernité qui nous est offerte. C'est-à-dire tout ce que l'homme a passé son temps depuis des millénaires à essayer d'améliorer, c'est-à-dire les communications entre les gens pour le commerce, etc., Dieu, par Jésus, il nous l'a donné immédiatement. Alors, est-ce que nous en profitons, nous, de cette modernité-là ? Est-ce qu'on n'est pas en train de souvent de se plonger dans des voyages intérieurs ? Est-ce qu'il faut que je fasse ça, je vais voir un psy parce que j'ai un souci, est-ce que je crois vraiment que... Est-ce qu'on ne va pas faire des voyages extérieurs ? On va aller à Lourdes pour ceux qui y croient, on va aller dans des camps, dans des réunions, dans des barbecues, dans des... je ne sais pas, plein de choses. Alors que Jésus, il est chez nous. Il est là. Plus besoin de faire les 4000 kilomètres. Les cadeaux. Est-ce qu'on a besoin, de faire, comme la reine de Saba, de venir souvent avec une espèce de cadeau pour l'amadouer écoute, si tu me permets ça, ou tu me le donnes, moi je te promets que je ferai ça, je vais faire un effort. Si t'as... Non, plus de cadeaux. Remarquez que Marie de Béthanie, le cadeau qu'elle va faire avec son parfum sur les cheveux de Jésus, c'est après, quand Jésus lui a déjà fait son cadeau à lui. Donc là, c'est plus un cadeau donnant-donnant. C'est simplement quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance, du remerciement. Et puis, la reine de Saba est aussi venue avec des questions, des énigmes. Est-ce qu'on n'a pas, nous, tout un panel de questions qui est toujours prêt ? Pourquoi tu as permis ça ? Pourquoi tu ne permets pas ça ? Pourquoi il y a eu ci ? On est là, plein de ça. Alors que Marie, elle fait quoi ? Elle le voit arriver, elle s'assied à ses pieds, elle ne s'est pas déplacée, elle ne lui donne rien, elle ne lui pose aucune question, elle l'écoute. Mais c'est extraordinaire ça. Est-ce que nous avons le bénéfice de cette modernité, de ce progrès-là ? Je pense que souvent, nous passons à côté, il faut revenir. Quand on dit revenir aux pieds de Jésus, c'est une expression. Mais là, quand on fait la comparaison entre ces deux femmes, ça a vraiment du sens. Alors d'accord, elles sont éloignées de nous de milliers d'années, mais non, elles ne sont pas éloignées de nous. Au fond d'elles-mêmes, c'est des femmes avec les mêmes soucis, les mêmes questions, les mêmes besoins. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attendez, si Jésus venait vraiment chez moi, vraiment, là, je le voyais, évidemment que je vais mettre à ses pieds, je ne vais pas commencer à faire des voyages et tout, il serait là, donc ce n'est pas très difficile d'être Marie. Ben, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la reine de Saba, il suffit d'être dans la maison et de regarder, parce qu'à côté, il y a Marthe. Donc votre remarque, elle n'est pas bonne. Parce que Marthe, son voyage, elle le fait. Dans la maison, elle n'arrête pas. Je monte, je descends, je balaye, je prépare, je fais ceci, je voyage. Les cadeaux, elle les fait. Je suis en train de m'y donner un barbecue dans le pain, il va manger, Jésus va être content. Je vais lui donner mon cadeau, prendre ce qu'il faut chez le boucher pour qu'il soit content. Et puis les énigmes, elle les a. Oh Jésus, pourquoi tu dis pas à Marie de m'aider ? Zut quoi ! La reine de Saba, elle est là, dans la maison. Parce qu'elle n'a pas acquis cette modernité-là. Elle ne l'a pas prise. On est tous des Marthe, d'une certaine manière aussi. Alors évidemment qu'il faut préparer à manger, qu'il faut que la salle soit propre et qu'on fasse ce qu'il faut pour ne pas être idiot, se poser des bonnes questions. Mais oh, Faisons les pas utiles, préparons les repas nécessaires et posons-nous les questions qui ont du sens. Et tout le reste, on l'évacue et on se met aux pieds de Jésus, qui est venu et qui nous donne tout. Alors, Jésus va répondre à Marthe. Une réponse que vous connaissez bien. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors, il faut savoir, vous avez marqué qu'il y a deux fois le mot Marthe. Ma petite connaissance du monde du théâtre me fait dire de manière sûre que quand un auteur met deux fois le même prénom dans une réplique, c'est pas une erreur. C'est que ça a deux sens différents. Dans Shakespeare, dans Molière, c'est toujours comme ça. Donc s'il y a deux fois Marthe, c'est qu'il y a deux tons dits différents. Le premier, c'est Marthe. Je l'imagine comme ça. Ça suffit. Stop, arrête. Et deuxième, Marthe. Le premier Marthe, c'est l'Ancien Testament, c'est la reine de Saba. Stop, je suis le Dieu qui décide. Je suis le Dieu qui peut se mettre en colère, entre guillemets, le Dieu que tu dois respecter, Timothéos, justement, celui qui craint Dieu. Et le deuxième Marthe, c'est le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de l'amour, de la bienveillance, Marthe. Dans la même phrase, on a l'accord entre ces deux femmes, et que dit-il après ? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, or, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Là, ça va résonner au cœur de chacun d'entre nous. Tu t'agites et pour beaucoup de choses et tu t'inquiètes. Je nous en supplie. Au pied de Jésus, essayons d'évacuer les inquiétudes qui ne servent à rien, qui ne feront pas grandir. Il y a 1000 textes sur ça, vous le savez. Essayons de profiter de ce progrès extraordinaire de la présence de Dieu là, gratuitement, ici. Sans qu'on ait à bouger, sans qu'on ait à perdre le temps du voyage, le temps d'accumuler les cadeaux et de se poser les mauvaises questions. Et c'est en ça qu'à ce moment-là arrive le texte de Tard, parce que juste après, il dit « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Et une seule chose est nécessaire, c'est quoi ? C'est la foi. La foi en ce Jésus qui, pour elle, était présent ici physiquement, mais qui pour nous est présent autour de nous, dans nous. Et cette foi, c'est... Bon, je reviens à mon défilé du 14 juillet. Quand on voit défiler tous ces hommes qui ont, au nom de la défense de leur pays, je peux très mal comprendre, qui en fait n'ont répondu que la mort, nous, ce que nous voulons, qui est comme défilé à nos 14 juillet à nous, c'est le soldat de la foi. Et je ne vais pas relire ce texte, puisque tout l'armement a été décrit. Voilà notre défilé à nous. Voilà notre 14 juillet à nous. C'est nous en soldats, mais non pas en soldats qui portent la mort avec des progrès extraordinaires comme je l'ai démontré, mais en soldats de la vie et dont le progrès, c'est pas d'avoir 1000 transmissions avec des hawaks et des trucs, c'est de dire je suis armé pour ce Jésus avec qui je suis en contact sur tous les champs de bataille 24 heures sur 24 sans aucune difficulté et sans aucun autre besoin que l'amour qu'il a pour moi et que j'ai pour lui. C'est... Et ça, ça vaut tous les défilés, tous les Trump, tous les Macron, tout ce que vous voulez. Soyons pleins de cette certitude de que nous sommes des chrétiens, ça veut dire que nous sommes à la pointe du progrès. Nous sommes au top du top de tout ce que l'homme a pu inventer. Parce que c'est pas l'homme qui l'a inventé, mais c'est Dieu. Et du coup... forcément, on va se sentir encore plus puissant, comme lorsqu'on voit un défilé, mais d'une puissance juste, qui a du sens, qui est positive, qui donne la vie, qui donne la force, quels que soient les mauvais moments que nous traversons. Et je vais conclure par un petit clin d'œil, qui à chaque fois me fait très très plaisir, parce que je me dis que la Bible est vraiment très très bien faite, et je vous promets que ça, je l'ai vu qu'à la fin de mon étude. Un moment, Jésus réunit Marie et la reine de Saba. C'est quand même fou. Vous connaissez ce texte dans Matthieu 12, au verset 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Voilà encore des gens qui se posent des questions, qui eux ne font pas de cadeaux, mais qui font des trajets pour venir voir Jésus et se confronter à lui. Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'ici, il y a plus que Jonas. » Et écoutez ça, la bouche de Jésus. La reine du midi. Alors la reine du midi, c'est la reine de Saba. C'est absolu, c'est sûr, c'est clair. Hein, c'est son autre nom. La reine de Saba, du midi, se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue, elle, des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Et ça, Marie l'avait compris, puisqu'elle s'est assise à ses pieds. Donc, ne perdons pas de vue tout ce que l'humanité a de fondamental depuis le début. Cette quête, ce besoin, cette nécessité que vous avez en vous, si vous vous interrogez, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que cette quête, vous l'avez. Et tout le monde là, de la reine de Saba à Marie de Béthanie aussi. Et Dieu nous a donné le moyen d'être totalement avec lui, tout le temps. C'est extraordinaire. C'est fantastique. On devrait tous pleurer de joie pour ce chemin parcouru des débuts de l'homme jusqu'à maintenant. Et nous, on est bénéficiaires de ça. Et les gens autour de nous doivent être bénéficiaires de ça. Soyons à notre tour des petits Salomon pour répandre cette nouvelle incroyable qui fait de nous les plus heureux des hommes et les plus heureuses des femmes.